Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Cela fait plusieurs semaines que l'accord sur le nucléaire iranien n'est plus qu'une affaire de jours. Discuté depuis un an à Vienne et présenté comme imminent, le retour au JCPOA, le plan d'action global commun sur le programme nucléaire iranien de 2015, se fait attendre et semble être passé comme d'autres dossiers régionaux au second plan des préoccupations diplomatiques depuis la guerre en Ukraine. Une certaine lassitude semble aussi s'être installée alors que le besoin du pétrole et du gaz iranien peuvent faire figure de priorité. Joe Biden avait fait du retour au JCPOA une urgence de son mandat après le retrait de l'accord décidé par Donald Trump en 2018. À 6 mois des élections de mi-mandat, le président américain subit une forte pression des élus du parti républicain, largement hostile à un accord, d'une partie des démocrates également et de son allié israélien. Regard avec nos invités en studio, Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du programme de recherche sur la dissuasion et la prolifération. Bonjour.
Bonjour.
Depuis les studios de nos confrères de France Bleu Hérault, Clément Terme, chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes, chargé de cours à Sciences Po et à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, auteur de l'Iran et ses rivaux entre nations et révolutions aux éditions Passé Composé. Bonjour.
Bonjour.
Et depuis Toulon, Pierre Razou, directeur académique de la FMES, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui publie la première édition de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
L'Iran a bien sûr suivi l'agression de l'Ukraine par la Russie avec un intérêt redoublé. Il n'a pas échappé à Téhéran ni à d'autres d'ailleurs que si l'Ukraine avait conservé son arsenal nucléaire, le pays ne subirait pas ce qu'il subit depuis plus de 8 semaines, soumis au feu incessant de l'armée de Moscou. À cela s'ajoute la preuve apportée par Vladimir Poutine que la peur de l'arme nucléaire paralyse les Occidentaux. Un débat stratégique qui ne peut que résonner à Téhéran, effet parmi d'autres de la guerre en Ukraine, l'interruption des pourparlers de Vienne ou d'imminente, la signature du nouvel accord est devenue hypothétique. Qu'est-ce qui est en cause? Les blocages causés par la position de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine ou le contexte géopolitique qui pourrait faire de l'Iran le nouveau fournisseur d'énergie de l'Occident, ce qui lui donnerait un moyen de pression supplémentaire afin d'obtenir de nouvelles concessions de la part des États-Unis. Pierre Razou, qu'est-ce que la guerre en Ukraine change par rapport à cet accord sur le nucléaire iranien?
Mon impression, c'est qu'en fait, ça change presque tout, dans le sens où maintenant, pour Joe Biden et l'administration américaine, le dossier iranien n'est plus du tout prioritaire. C'est-à-dire que jusque-là, Joe Biden se disait « il me faut un succès de politique étrangère à mettre à mon actif, après le retrait désordonné d'Afghanistan, après tout ce qui s'est passé avec la Chine, etc. » Et donc, Vladimir Poutine lui offre sur un plateau d'argent la crise en Ukraine, un regain de position très dur, une nouvelle guerre froide entre l'OTAN et la Russie. Et donc, pour la première fois, je crois, depuis qu'il est élu, Joe Biden se dit qu'il va peut-être gagner les élections de mi-mandat, qui jusqu'à présent étaient quand même très compromises, d'autant plus qu'un accord avec l'Iran aurait été très mal perçu à la fois par le Congrès et par l'opinion publique américaine. Certains à Washington pensaient qu'ils auraient pu être taxés de compromis à tout prix avec Téhéran, etc. Alors que là, il se dit finalement, ma posture très dure et intransigeante avec Moscou et le Kremlin, conjuguée au fait que finalement je ne lâche plus rien avec l'Iran, peut me permettre de gagner les élections de mi-mandat. Donc à la limite, je vais jouer le facteur temps, je vais aller jusqu'aux élections de mi-mandat. Grâce à ma posture, je vais peut-être les gagner. Et si je les gagne, nous reviendrons discuter avec les Iraniens dans un second temps.
Alors, votre avis à vous, Héloïse Fayet, on reviendra bien sûr sur cette question. Le facteur temps, élément alors que partage aussi, donc on l'a compris avec Pierre Razou, ce qu'il en était côté américain, on développera bien sûr, mais qu'en est-il finalement côté iranien
Alors le facteur temps, c'est vraiment quelque chose qui apparaît en fait de moins en moins crédible, parce que on l'a vu pendant les négociations à Vienne, il y avait presque une déclaration par semaine disant « Ah, ce n'est plus qu'une question de jour et il faut absolument conclure l'accord d'ici une semaine, sinon l'Iran atteindra ce qu'on appelle le degré maximal d'enrichissement de l'uranium, la durée en fait nécessaire pour avoir l'arme, c'est ce qu'on appelle le breakout time. » Et donc l'objectif, c'était notamment de détendre au maximum ce breakout time qui en fait se réduit de plus en plus. Et donc en fait, là, on voit tout simplement qu'effectivement, plus on attend, et bah, plus l'Iran continue d'enrichir son uranium. On reviendra peut-être après dessus, parce que c'est des questions assez techniques. Et donc, la peur, en fait, instillée au cours des négociations par les diplomates occidentaux en disant, voilà, il faut absolument le faire maintenant, mais en fait, ça a perdu en crédibilité. Et donc, peut-être, effectivement, que Joe Biden pourra revenir aux négociations après les élections de mi-mandat, et puis une fois que le conflit en Ukraine se sera un petit peu enlisé, enfin, où on se sera réglé, on l'espère. Mais en tout cas, là, voilà, le spectre du temps ne fonctionnera plus.
Clément Terme, je vous passe la parole éventuellement pour nous parler de peut-être de la question russe. On peut rappeler que Moscou a joué un rôle efficace dans les négociations sur le nucléaire iranien depuis le début des années 2000, en affirmant son opposition à l'obtention d'une arme nucléaire par l'Iran, tout en défendant une stratégie basée sur la négociation pour résoudre ce dossier. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine change côté russe par rapport à cet accord sur le nucléaire iranien, Clément Terme ?
Alors la position russe a été constante. Il faut noter, contrairement aux Américains qui ont changé de position sur l'accord sur le nucléaire iranien avec le retrait en 2018 après la décision d'Obama, donc l'impulsion principale vient des États-Unis. Et d'ailleurs on voit que le blocage finalement vient également des États-Unis. Donc le mouvement tactique russe qui visait à mettre une pression pour montrer aux Occidentaux qu'avec la guerre en Ukraine il sera peut-être plus difficile de compartimenter les dossiers, était seulement un élément tactique. Il n'y a pas d'objectif de la Russie, au contraire, de bloquer un accord sur le nucléaire iranien, parce que, tout simplement, la Russie pourrait bénéficier d'un Iran qui est plus solvable. La concurrence que vous avez évoquée en introduction dans le domaine de l'énergie est très virtuelle. Aujourd'hui, par exemple, pour le gaz, l'Iran n'est pas un véritable exportateur de gaz de manière significative, au-delà des petites quantités exportées aux pays voisins, qu'il s'agisse de l'Arménie ou de l'Irak, par exemple, ou de la Turquie également. Mais de là à remplacer la Russie sur le marché européen, on parle de délais de 2030-2040. Donc c'est des délais très longs. Sur la question pétrolière, on parle de 1 million de barils jour en plus, très loin des barils exportés par la Russie. Donc effectivement, la dimension concurrentielle est à très long terme. Ensuite, le bénéfice que peut tirer la République islamique de la nouvelle situation, c'est un bénéfice idéologique, dans le sens où la Russie, qui est plus anti-occidentale, va peut-être plus investir sa relation avec la République islamique, qui peut servir parfois de variable d'ajustement dans les relations avec les grandes puissances. Mais d'un autre côté, il y a une limite là aussi côté russe, c'est à la fois les bonnes relations avec Israël et les bonnes relations avec les États arabes du Golfe, qui eux ne souhaitent pas ce rapprochement russo-iranien. Donc il y a là aussi un facteur limitant. Et du côté de Biden, c'est la même chose. C'est-à-dire que si Biden se tourne vers l'Iran pour avoir plus d'exportations pétrolières, il risque de rencontrer des problèmes du côté des Émirats arabes unis ou de l'Arabie saoudite. Donc le coût-bénéfice qui est lié à la nouvelle situation énergétique internationale après la guerre d'Ukraine n'est pas favorable de manière si évidente à la République islamique d'Iran.
Alors, juste pour rebondir sur la réaction des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite vis-à-vis d'un rapprochement américano-iranien sur la question du pétrole, une explication, un éclairage, Clément Terme, par rapport à ce que vous venez de dire ?
Oui, tout à fait. L'administration Biden avait promis aux partenaires du Golfe de ne pas réitérer l'erreur de l'administration Obama, à savoir de signer un accord sans consulter les puissances régionales. Et donc, c'était une des faiblesses du premier JCPOA, du premier accord sur le nucléaire de 2015, de ne pas avoir intégré les perceptions régionales. Et donc, c'est vrai que ce débat actuel sur est-ce que les gardiens de la Révolution, dans leur entièreté, doivent rester sur la liste des organisations terroristes américaines, est à la fois une question de politique interne, comme l'a souligné Pierre Razou, mais c'est aussi une question de politique régionale pour les États-Unis, puisque les gardiens de la Révolution ont des réseaux d'influence dans toute la région et sont une menace considérée comme existentielle par Israël. Donc c'est vraiment un coup politique très important pour l'administration Biden. Et donc on voit que finalement l'arbitrage politique à Washington aujourd'hui est plutôt en faveur de gagner du temps, puisqu'on est déjà à plus de 12 mois de négociations. Mmh. Les négociations ont repris depuis 12 mois. Mmh. Et finalement les négociations sont suspendues. Donc un accord serait prêt depuis début mars, selon les sources diplomatiques françaises. Mais c'est le contexte politique, celui de la relation bilatérale entre Washington et Téhéran qui bloque.
Alors, Pierre Razou, pour prolonger ce que vous disiez dans votre première intervention, pas d'accord à attendre avant les élections de mi-mandat de novembre prochain.
Alors, on peut toujours avoir une surprise hein, sur la scène internationale. Par définition, tout est possible. Mais logiquement, oui, en effet, j'ai du mal à imaginer que les Américains, à moins d'un changement majeur sur le contexte global face à la Chine, face à la Russie, se fragilisent par le dossier iranien, alors même qu'ils sont plutôt bien positionnés et que Biden peut espérer emporter les élections de mi-mandat. Je crois aussi que ce que ça indique, c'est que intuitivement, l'administration américaine et un certain nombre d'acteurs locaux ou régionaux, voire même globaux, ont accepté l'idée qu'à terme, l'Iran sera une puissance nucléaire. Il y a un certain nombre de déclarations de Biden et de Blinken ces dernières semaines qui ont qualifié, qui ont mis dans le même sac la Corée du Nord, l'Iran, un certain nombre de pays qui finalement les ont qualifiés de nucléaires. Donc ma compréhension, c'est qu'ils se disent, ok, de toute façon, même avec si on signait un accord, dans 5 ans ou dans 7 ans, l'Iran sera probablement nucléaire. Donc après tout, autant se focaliser sur les vraies questions existentielles, enfin pas existentielles, mais cruciales pour nous Américains en ce moment, c'est-à-dire la relation à la Russie, la relation à la Chine, la relation à l'Europe, accessoirement peut-être la relation aux pays de la péninsule arabique, et préparer les esprits notamment dans la région, c'est-à-dire notamment en Arabie, aux Émirats arabes unis, en Israël, que oui, un jour, probablement, l'Iran aura la bombe, entre guillemets, mais qu'après tout, ça reste gérable parce qu'il reste toujours le parapluie américain, parce que ces États-là seront dotés d'éléments de force de frappe en profondeur grâce à des aviations, notamment par exemple les Rafales livrées aux Émirats arabes unis ou les F-35 livrés à Israël, qui permettront finalement à ces pays, Israël ayant de toute façon la bombe, d'exercer eux aussi une dissuasion classique envers l'Iran.
Alors Héloïse Fayet, avec moi en studio, vous réagissez comment par rapport à ce que vient de dire Pierre Razou sur cette acceptation qui se glisse année après année sur l'état de fait, qui n'est pas encore une réalité, mais vous allez nous le dire, de l'Iran puissance nucléaire?
Alors effectivement, on a vu là dans les récents documents publiés par l'administration américaine, donc la National Defense Strategy et la Nuclear Posture Review, donc ce sont des documents en fait qui sont publiés tous les 4 ans par les nouvelles administrations américaines et qui font un petit peu l'état du monde. Et donc la Nuclear Posture Review se concentre, comme son nom l'indique, surtout sur les potentielles puissances nucléaires ou les puissances nucléaires en tant que telles, donc la Russie, la Chine. Et puis effectivement, on voit apparaître maintenant l'Iran et la Corée du Nord dans le même sac, le sac en fait de la prolifération nucléaire, qui est donc en fait un type d'arsenal différent de l'arsenal russe, qui lui est beaucoup plus massif et donc relève plutôt de la dissuasion que de la prolifération. Et puis ça se voit aussi au niveau des Israéliens, qui sont conscients que même si un accord est signé dans quelques semaines, quelques mois, ça ne fait en fait que repousser le stade nucléaire de l'Iran à la durée de l'accord, c'est-à-dire à 5, 10, 15 ans selon la durée de l'accord. Mais les Israéliens sont à peu près conscients c'est ce qu'ils annoncent, que à la fin l'expiration d'un éventuel nouveau JCPOA, l'Iran pourra reprendre plutôt facilement son enrichissement de l'uranium. Et donc, ils sont en effet prêts soit à agir, parce qu'ils ont répété plusieurs fois que si l'Iran se dotait d'une bombe nucléaire et était surtout capable de la militariser, c'est-à-dire de la mettre sur un projectile. Parce que bon, même si vous avez en fait la bombe elle-même, si vous n'avez pas le missile capable de l'envoyer sur votre cible, bon, la bombe ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait une réaction, une frappe israélienne, voire aidée par les États-Unis, la question se pose. Mais effectivement, comme ça a été rappelé par Pierre Razou, Israël est également une puissance nucléaire. Et là, on l'a vu avec la signature des accords d'Abraham l'année dernière, c'est ce rapprochement avec donc Israël, les Émirats et puis je crois que c'est Bahreïn, le troisième pays de la région. Bon, bah voilà, on commence à voir se dessiner peut-être une alliance nucléarisée proche des États-Unis. Et bah pourquoi pas en face, à moyen terme, une alliance également nucléarisée de l'Iran avec des États satellites autour, donc la partie chiite de l'Irak, le Liban, la Syrie.
Alors, puisqu'on parlait de la question de l'enrichissement, alors peut-être je vais passer la parole à Clément Terme. Alors, déjà, avant ça, on peut préciser que, bien évidemment, dès le début de la guerre en Ukraine, l'Iran s'est rangé du côté russe. Hein, je reviens juste en estimant que la guerre, tout en estimant que la guerre n'était pas une solution. Et puisque vous parliez des missiles balistiques, dans la foulée de ce soutien de la Russie par l'Iran, soutien en tout cas, voilà, pas d'opposition, Téhéran a envoyé un message qu'il est une force avec laquelle il faut compter, effectivement, en dévoilant, alors il y a un nouveau missile balistique le 16 février dernier. Clément Terme, l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, où est-ce qu'on en est? Il y a des chiffres qui donnent le passage d'un enrichissement de 20 à 60%. Et alors qu'il fallait peut-être 12 mois à l'Iran il y a 7 ans pour produire suffisamment de combustible nucléaire pour pouvoir fabriquer une bombe, cette estimation se serait réduite à environ un mois. Vous êtes d'accord avec ce constat ?
Alors oui, ce qu'il faut préciser, c'est que en 2012, pour les Européens et les États-Unis à l'époque, si l'Iran enrichissait de l'uranium à 20 ou 60%, c'était une ligne rouge qui devait déclencher l'option militaire. Donc le degré d'acceptabilité du programme nucléaire iranien a changé à la fois avec la signature de l'accord en 2015 et après le retrait américain de 2018. Donc on a une nouvelle perception que l'Iran est un état du seuil et que finalement il a la capacité, du même que le Japon par exemple, ou quelques dizaines de pays sur la Terre aujourd'hui, de passer au nucléaire militaire, de militariser le programme. Donc tout le débat sur le nucléaire iranien, c'est la question des intentions. Donc la crise a commencé en 2002 sur une crise de confiance avec des révélations, des activités dissimulées. Donc il y a un problème d'intention et il faut se rappeler que le programme a été relancé. Donc lancé par le Shah dans les années 50, puis développé sérieusement dans les années 70, mais relancé pendant la guerre Iran-Irak. Donc dès le début de l'activité nucléaire de la République islamique, donc de ce nouveau régime qui a repris finalement, après l'avoir interrompu, c'est important de le souligner, le programme du Shah, un problème d'intention. Donc, mais en droit international, la difficulté, c'est de prouver les intentions. Et donc, il n'y a pas eu de révélation de smoking gun pour l'instant. Et c'est vrai qu'après la guerre de 2003 américaine contre l'Irak, la communauté internationale est devenue, disons, plus sceptique sur les preuves qu'on peut apporter sur la militarisation d'un programme nucléaire. Donc là, il y a tout un débat à la fois juridique, politique, mais je pense que le vrai problème qui est au cœur de ce débat aujourd'hui, c'est la nature du régime politique de la République islamique. Puisque quand le Shah d'Iran développait un programme similaire, les Occidentaux, au contraire, investissaient dans le programme. Aujourd'hui, ce rôle-là, c'est plutôt la Russie qui le joue, et peut-être dans l'avenir la Chine. Donc il y a vraiment une perception aussi des puissances internationales non occidentales du Conseil de sécurité qui est différente des puissances occidentales. Et donc le débat qui va avoir lieu aujourd'hui après la guerre d'Ukraine et l'émergence peut-être d'un nouvel ordre international, ce sera de voir si la Chine va investir ce marché nucléaire civil, en tout cas, en Iran.
Alors on parlera de la Chine dans la deuxième partie de l'émission. Pierre Razou, une réaction peut-être à ce que, ou un complément par rapport à ce que vient de dire Clément Terme sur la question des intentions.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en début de semaine, Ali Motahari, en Iran, donc un ancien député du Majlis, très proche des ultra-conservateurs, a fait parler de lui parce qu'il a déclaré dans une interview « Dès le début de nos activités nucléaires, notre objectif était de disposer de la bombe nucléaire et de renforcer notre pouvoir dissuasif. Cependant, nous n'avons pas pu protéger la confidentialité du processus et des rapports confidentiels qui ont été dévoilés par les moudjahidines du peuple. » Et tout de suite après, l'Organisation de l'énergie atomique iranienne a démenti radicalement en disant non, le programme nucléaire pacifique de l'Iran n'a jamais eu de dimension militaire. Donc, comme le disait Clément Terme, on voit bien qu'en fait, il y a une dualité. Et que si les Iraniens ont ressuscité à la fin des années 1980 le programme nucléaire, même discrètement et doucement, c'est parce que pour eux, il n'était plus question de revivre les affres de la guerre en Irak. Et le motto, c'était « plus jamais ça ». Plus jamais ça, donc la bombe pour dissuader les voisins et tous les agresseurs potentiels.
Merci Pierre Razou. On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve avec Héloïse Fayet et Clément Terme après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Nucléaire iranien, ce que change la guerre en Ukraine. Nous retrouvons nos invités en studio. Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du programme de recherche sur la dissuasion et la prolifération. Depuis les studios de nos confrères de France Bleu Hérault, Clément Terme, chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes, chargé de cours à Sciences Po et à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, auteur de L'Iran et ses rivaux entre nations et révolutions aux éditions Passé Composé. Et depuis Toulon, Pierre Razou, directeur académique de la FMES, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Pierre Razou, je vous ai interrompu à la fin de la première partie de l'émission pour laisser la place au journal. Vous évoquiez l'importance de la guerre Iran-Irak sur le programme nucléaire iranien. Et bien sûr aussi, c'est une question, la guerre actuelle en Ukraine donne peut-être aussi une conviction que ce programme est important pour l'Iran. Pierre Razou.
Oui. Comme vous l'aviez rappelé en introduction, il y a un certain nombre de voix, notamment chez les ultra-conservateurs en Iran, qui ont rappelé au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie que si l'Ukraine avait conservé son arsenal nucléaire en 1994, elle n'en serait pas là. Et que donc, c'est une raison de plus d'être crédible et d'être au moins au niveau du seuil, voire d'avoir carrément la capacité militaire nucléaire. Je crois qu'en plus, la guerre en Ukraine a un autre impact, c'est que l'Iran qui souhaitait à tout prix moderniser son arsenal classique, c'est-à-dire en fait ses bateaux, ses chars, ses avions, ses missiles, qui étaient obsolètes, qui avaient plus de 50 ans, était en négociation avancée avec la Russie et un petit peu avec la Chine. Là, la guerre en Ukraine rend caduque toute négociation dans le sens où d'abord les Russes vont avoir besoin de leurs avions, de leurs blindés, de leurs missiles pour eux-mêmes, parce que pour combler les pertes importantes subies en Ukraine. Et puis, ils sont sous la pression internationale, donc ils vont avoir de plus en plus de mal à livrer de l'armement à l'étranger. Donc, les Iraniens comprennent bien que finalement, la modernisation de l'armée classique va devoir attendre. Donc, c'est de l'eau au moulin pour tous ceux qui disent, finalement, en attendant, il faut avoir la capacité nucléaire militaire pour dissuader nos voisins et nos agresseurs potentiels.
Alors Héloïse Fayet, on l'a abordé, mais très rapidement dans la première partie de l'émission, la question de l'enrichissement. Où en est l'Iran aujourd'hui de son uranium?
Oui, et alors effectivement, c'est parfois un petit peu difficile d'avoir des chiffres parce que ces rapports sont faits donc, par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui, sous le parapluie du JCPOA, était censée pouvoir avoir accès très facilement aux installations nucléaires, donc civiles, parce que rappelons-le, effectivement, il n'y a officiellement pas de programme nucléaire militaire en Iran, donc était censée avoir accès aux installations. Sauf que donc, effectivement, les États-Unis sont sortis du JCPOA, donc les Iraniens ont commencé à mettre de plus en plus de barrières aux inspecteurs de l'AIEA, mais l'AIEA publie quand même des chiffres. Donc là, en février 2022, le stock d'uranium enrichi à 20% était estimé à 182 kilos, et celui à 60% à 33 kilos. Et ça, vous l'avez rappelé dans la première partie de l'émission, donc plus on a de quantité élevée d'uranium enrichi, plus vite on peut aller à un uranium enrichi à 90%, qui est celui de la qualité militaire, et on estime qu'il faut à peu près 25 kilos d'uranium enrichi à 90% pour faire une bombe. Et par comparaison, en novembre 2021, on était à 113 kilos de 20% et 17 kilos de 60%. Donc on voit bien que le programme, l'enrichissement vraiment continue et d'une façon exponentielle, ce qui rappelle à quel point effectivement l'Iran est proche d'avoir la bombe, mais on l'a dit également en première partie, l'important c'est l'intention de l'avoir. Or pour le moment, à part certaines déclarations, on ne voit pas d'intention claire d'avoir la bombe. L'Iran semble vouloir rester à un état du seuil. Et rappelons qu'il existe d'ailleurs une fatwa du guide suprême expliquant que non, l'Iran ne se dotera pas de la bombe atomique. Mais reste à voir quelle crédibilité on accorde évidemment à cette déclaration.
Alors, rester à un état du seuil pour Téhéran, Clément Terme, la question aussi pour les Iraniens, c'est évidemment la question des sanctions qui sont imposées au pays depuis longtemps, qui mettent, je parle sous votre contrôle à chacun, l'économie dans un mauvais état, bien évidemment. Alors, que signifie aussi ce report de l'accord dont on disait dans la première partie qu'il était prêt depuis le mois de mars? La guerre en Ukraine est bien sûr passée par là. Et côté américain, une intention finalement de laisser traîner au-delà des élections de mi-mandat. Pour l'Iran, il y a tout de même une certaine urgence, Clément Terme.
Oui, et en même temps, avec l'augmentation des prix du pétrole sur le marché international, cette urgence est un peu, disons, diminuée. Parce que même si l'Iran vend moins de pétrole, le fait que les prix aient augmenté, même sous sanction, le pétrole iranien est plus attractif. Donc les acheteurs potentiels sont prêts à prendre plus de risques aujourd'hui, parce que le pétrole iranien, comme le pétrole russe, et c'est un paradoxe, est vendu avec une décote assez importante sur le marché international. Donc c'est ambivalent, parce qu'en même temps, s'il y avait un accord, l'Iran pourrait vendre à un prix très haut des quantités supplémentaires de pétrole. Donc cette augmentation des prix a un effet double. En même temps, repousser l'urgence de la survie économique du système, et en même temps donner une incitation forte pour signer rapidement. Mais je pense que la problématique là aussi est politique, c'est-à-dire que c'est quel est le but des dirigeants de la République islamique ? Ce n'est pas de promouvoir le développement socio-économique du pays, c'est de défendre les intérêts du régime, des ambitions idéologiques. Et donc qu'est-ce qu'on voit depuis la fin, si vous voulez, de l'application de l'accord, d'abord par les Américains et ensuite par la République islamique ? C'est la paupérisation du pays, l'explosion de la pauvreté, l'émigration qui s'accélère. Donc on voit que finalement, la jeunesse iranienne ne se projette pas en Iran pour son avenir. Donc il y a vraiment un rêve de migration et il y a surtout un déclin économique très sévère et la perte de pouvoir d'achat, l'inflation galopante. Donc la situation économique est mauvaise. À cela, il faut ajouter l'arrivée de milliers de réfugiés afghans, donc qui créent aussi un choc sur le marché du travail local, même si les emplois occupés par les Afghans, la majorité des Iraniens refusent de les faire, disons de travailler dans ces secteurs-là. Donc il y a vraiment aussi une situation régionale qui n'est pas favorable, parce que la chute du gouvernement pro-américain en Afghanistan aussi complique l'accès aux devises pour l'Iran. Donc il y a vraiment une situation bloquée. L'espoir, si vous voulez, pour les dirigeants de la République islamique, c'est qu'une Russie plus anti-occidentale sera prête à commercer de manière plus forte, plus significative avec la République islamique, et que le contournement des sanctions va devenir la norme entre la Russie, la Chine et l'Iran. Donc c'est l'idée de promouvoir un axe économique qui, en fait, dépasse ce qu'ils appellent la domination américaine sur le système économique international, et notamment les fameuses lois extraterritoriales américaines. Donc l'espoir, si vous voulez, du côté iranien, c'est la dédollarisation de l'économie internationale, mais là aussi on est sur un objectif de long terme. Ça fait des années qu'on parle de commerce en rouble et en rial, la monnaie nationale iranienne entre la Russie et l'Iran, et ça n'a toujours pas lieu. Pour l'instant, les seuls modes alternatifs, si vous voulez, c'est le troc. Donc on est sur des systèmes quand même anciens. Donc il n'y a pas de proposition de ces pays-là, si vous voulez, qui contestent dans une certaine mesure, de manière différente, l'hégémonie occidentale sur le système international. Il n'y a pas de proposition positive sur le plan économique. Donc pour l'instant, on est au stade de l'idéologie.
Alors, par rapport à ce que vient de dire Clément Terme, peut-être Pierre Azou, une réaction. Et puis cette question, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la nature des relations entre Téhéran et Pékin ?
Je crois que Pékin-Téhéran, c'est attirer un maximum de capitaux chinois et un maximum d'investissements chinois sans tomber sous le contrôle ou sous l'influence de la Chine. Donc, c'est mettre ses œufs dans tous les paniers, le panier chinois, le panier russe, le panier asiatique, le panier régional, le panier occidental, et essayer de tirer les marrons du feu. Juste rebondir peut-être sur un point, c'est que je pense que, comme le disait Clément, il y a une véritable lutte idéologique et positionnement idéologique en Iran, et tout le monde se projette déjà dans l'après Ali Khamenei, c'est-à-dire l'actuel guide suprême, et probablement que la faction des Pazdaran et des gardiens de la révolution hyper-nationaliste mise clairement sur la capacité nucléaire, là où le clergé a peut-être d'autres options et se dit, comme rappelait tout à l'heure Héloïse, le nucléaire militaire, ça n'est pas bon, ça n'est pas sain, et donc on le laisse tomber. Donc au-delà même de la situation géopolitique globale, je crois même que cette manière d'aborder le dossier nucléaire en Iran montre les rivalités entre les différentes factions au pouvoir, y compris à l'intérieur même des conservateurs.
Alors, Héloïse Fayet, rivalité entre les factions différentes au pouvoir.
Oui, alors effectivement, on l'a vu même dans le processus d'élection de notre président Raisi en juin. Donc, rappelons que effectivement, les négociations sur le nucléaire avaient repris donc en mars 2021, quand c'était encore le gouvernement de Rouhani. Et puis ensuite, l'élection de Raisi, qui est considéré comme un ultra-conservateur, avait entraîné une suspension des négociations à Vienne, le temps que le nouveau gouvernement puisse examiner ce qui avait été fait par leurs prédécesseurs. Donc, on peut imaginer effectivement des frictions entre les différents courants politiques internes à l'Iran. Et puis, on peut également revenir sur le fait que le premier déplacement à l'étranger du président Raisi pour voir un homologue, c'était à Moscou. C'était pour rencontrer le président Poutine. Et c'était également rendu au sommet de la Ligue islamique mondiale. Mais le premier vraiment déplacement bilatéral qu'il a fait, c'était à Moscou. Et l'Iran a également rejoint l'organisation de coopération de Shanghai. Et donc, c'est vrai qu'on voit clairement se dessiner un nouveau groupe, disons Russie, Chine, Iran. Et puis, quand la Russie a été exclue du système bancaire SWIFT, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de jeunes Russes qui disaient « Ah, mais je ne peux plus regarder Netflix, je ne peux plus rien faire. » Et en face, vous aviez des exilés iraniens jeunes également qui leur disaient « Ah bah, bienvenue dans notre monde, bienvenue dans le camp en fait des exclus du système bancaire mondial. » Et donc, effectivement, comme ça a été dit par les deux autres invités, progressivement, l'Iran et la Russie vont probablement essayer de trouver un système plus fiable que le troc pour pouvoir commercer ensemble. Et ce, tant pis si donc les États-Unis ne veulent pas que l'Iran revienne, entre guillemets, dans le concert des nations, et ni la Russie.
Alors la question de la façon dont la Russie sortira de la guerre en Ukraine est évidemment un facteur important, Clément Terme, ne serait-ce que dans la relation entre la Russie et l'Iran.
Oui, parce que la relation est asymétrique. Donc la Russie est une grande puissance internationale et l'Iran est une puissance régionale. Mais c'est vrai que dans le contexte de tensions très fortes avec Washington, du point de vue de Moscou, on observe une dimension trilatérale à cette relation parce que finalement, la Russie a intérêt à investir sur un régime anti-américain dans un moment de tension avec les États-Unis. Mais en même temps, je l'ai dit, il y a des limites très fortes, c'est-à-dire les relations avec Israël, notamment en Syrie. Donc la crainte de l'Iran, c'est de voir un affaiblissement militaire russe, notamment donc au Moyen-Orient, mais aussi à la frontière tadjiko-afghane pour protéger les États d'Asie centrale. Donc un hégémon russe, disons, affaibli dans l'ancien espace soviétique, vu que la République islamique depuis 1991 et les indépendances donc au Caucase du Sud et en Asie centrale a investi à travers l'influence russe, c'est-à-dire que dans cet espace, Téhéran n'est pas une puissance contestataire de l'ordre hégémonique russe, contrairement au Moyen-Orient où l'Iran est un contestataire de l'ordre hégémonique américain. Donc il y a un risque à cet affaiblissement. On l'a vu d'ailleurs avec la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc la Russie a moins soutenu l'Arménie. Et donc ça, pour la République islamique d'Iran, c'est un paramètre à prendre en compte aussi dans sa politique régionale. Et donc là, il y a aussi des difficultés à venir pour l'Iran. Mais en même temps, l'espoir, je vous ai dit, c'est l'évolution systémique d'un régime idéologique. C'est-à-dire, même si la Russie, en tant que grande puissance, est affaiblie, la République islamique espère l'émergence d'un nouvel ordre international qui soit plus favorable aux États qui contestent la puissance américaine.
Donc avec une sorte de réorganisation. Alors vous parlez, Clément Terme parlait de l'affaiblissement de la Russie. Qu'est-ce que l'on peut dire? On a évoqué rapidement les questions économiques avec bien sûr les Pasdaran et certains tenants des manettes en Iran qui savent tirer les marrons du feu des sanctions imposées par les États-Unis. Mais Pierre Razou, est-ce qu'on peut parler tout de même, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale aussi, d'un affaiblissement de l'Iran?
J'en suis pas sûr parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, l'Iran privilégie toutes les relations bilatérales. C'est-à-dire en fait son nouveau mot d'ordre, c'est on va rétablir des relations, peut-être pas cordiales, mais en tout cas fonctionnelles avec tous nos voisins. Donc ce qui se passe en ce moment à Bagdad est intéressant puisque malgré les décapitations de 80 condamnés à mort il y a quelques semaines en Arabie Saoudite, à la suite de laquelle Téhéran avait rompu toute négociation avec l'Arabie Saoudite. Là, ils ont repris, à la fois sous l'égide de l'Irak et du sultanat d'Oman. Et donc, apparemment, il y a un cinquième round qui vient de se dérouler à Bagdad, où finalement, les Iraniens ont parlé aux Saoudiens et commencent à aborder les vraies questions de sécurité régionale et surtout d'ordre politique régional. C'est-à-dire que maintenant, carrément, on peut comprendre que tous les dossiers sont sur la table. Donc, en fait, ils sont en train d'organiser ou en tout cas de s'entendre sur la manière dont les relations entre les deux pays se régleront sur le long terme. Pareil avec les Émirats arabes unis. On voit bien qu'aujourd'hui, leur priorité, c'est aussi ce qui se passe au Pakistan et en Afghanistan. Cette semaine, il y a eu des violents combats à la frontière, enfin, en tout cas des accrochages entre les gardes frontières iraniens et les talibans en Afghanistan. Donc, ça devient de nouveau la nouvelle priorité. Donc, tout ça montre en fait un paysage pour l'Iran, finalement, comme pour les États-Unis, le JCPO n'est plus la priorité. Mmh. Pour l'Iran, quelque part, ça n'est plus non plus complètement la priorité.
C'est intéressant parce qu'évidemment, tout ça a beaucoup évolué et ça rejoint ce qu'on disait précédemment, Héloïse Fayet, finalement. Alors, bon, bien sûr, la détention de la bombe par l'Iran, c'est une chose, mais la question des missiles balistiques l'emporte sur le reste. Tout ça est tout de même une donnée vraiment nouvelle aujourd'hui.
Alors, effectivement, le programme balistique iranien donc, ne cesse de se moderniser donc, avec l'aide potentiellement donc, de la Russie et on peut peut-être un jour de la Chine. Et ça, c'était l'un des défauts relevés donc, par Donald Trump et qu'il avait utilisé pour justifier son départ du JCPOA. L'accord de 2015 ne couvrait pas donc, le programme balistique iranien, donc, qui est pour le moment évidemment uniquement conventionnel, mais c'est ça qui permettra éventuellement de mettre une bombe si un jour l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et puis, l'accord ne couvrait pas non plus donc, ce qu'on appelle effectivement l'influence régionale de l'Iran à l'étranger. Donc, par exemple, certaines milices chiites en Irak, la présence de l'Iran en Syrie pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, le Hezbollah au Liban. Mais par contre, on l'a vu en 2019 et en 2020, il y a eu un fort mouvement de contestation locale dans ces pays contre l'influence iranienne, avec vraiment des manifestations très fortes en Irak qui, en fait, montraient qu'ils en avaient marre de la présence iranienne en Irak. Et aussi, ça s'était causé par notamment le Covid-19 qui a fortement affecté l'économie iranienne. Et de ce fait, l'Iran ne pouvait plus donner autant d'argent qu'avant à ces groupes affiliés, à ces groupes d'influence, donc que ce soit en Irak, en Syrie ou au Liban. Et c'est ça qui, a priori, a provoqué aussi donc, la volonté de l'Iran de revenir dans le dialogue régional, mais en tant qu'État, et pas via des canaux un petit peu détournés avec les passes d'Aran, avec la force Quds, donc la force Quds qui est celle qui gère en fait les groupes iraniens à l'étranger, mais vraiment en tant qu'État entier, en tant qu'État régalien et régulier. Et donc, effectivement, ça a été dit, donc des discussions avec l'Arabie Saoudite, et puis l'Iran se rend compte que, donc, comme on l'a dit, les pays disons, du Golfe sont en train de s'aligner avec une proximité grandissante avec Israël. Et donc l'Iran se rend compte que pour l'instant, il ne peut pas faire d'alliance à part avec voilà, la Syrie, le Liban, l'Irak. Et donc il a plutôt intérêt à se rapprocher de cette alliance des accords d'Abraham. Bon, alliance qui est aussi pas extrêmement forte pour le moment, à part, on l'a vu, la signature d'accords de défense, enfin, d'accords de coopération entre Bahreïn et les Émirats arabes unis et Israël. Ça reste extrêmement soumis et ben voilà, à la bonne volonté américaine, au contexte et puis au contexte international plus large.
Alors, on n'a pas le temps de développer des conséquences de ce qu'on a abordé jusqu'à présent sur le traité de non-prolifération. Ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. Une minute pour terminer cette émission. Clément Terme et Pierre Razou, en guise de conclusion, très rapidement.
Oui, Clément Terme. Ce qu'on peut dire, c'est que les principales victimes de cette situation, c'est la population iranienne qui s'appauvrit. Et donc, on voit que les sanctions nuisent vraiment très fortement au niveau de vie et c'est un déclassement économique du pays. Donc le hard power, si vous voulez, iranien, donc l'investissement dans les programmes militaires conventionnels et le développement d'une puissance régionale et de réseaux d'influence se fait au détriment de la qualité de vie de la population et aussi accroît les risques de crise écologique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais une des conséquences aussi de cette situation, c'est la dégradation des conditions environnementales.
Pierre Razou, très rapidement.
Oui, juste pour en pointer et rappeler un dernier point sur les missiles balistiques, c'est ce qui s'est passé lors de la frappe sur Erbil le mois dernier qui visait apparemment des installations israéliennes, ou en tout cas qui avait accueilli des installations israéliennes. Et je crois que ce qui est important, c'est que pour la première fois, le gouvernement iranien a complètement revendiqué en disant qu'il tapait Israël et qu'à partir de maintenant, si Israël venait frapper en Iran, l'Iran riposterait non plus via ses milices, le Hezbollah, etc., mais directement sur le territoire israélien, et c'est un message très clair.
Merci Pierre Razou. Je rappelle que vous interveniez depuis Toulon et que vous êtes directeur académique de la FMES, la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Clément Terme, qui était depuis les studios de nos confrères de France Bleu Hérault, chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes, chargé de cours à Sciences Po et à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, auteur de L'Iran et ses rivaux entre nations et révolutions aux éditions Passé Composé, et Héloïse Fayet, qui était avec moi en studio, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI et coordinatrice du programme de recherche sur la dissuasion et la prolifération géopolitique, était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À très bientôt.